Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, on traverse la Méditerranée direction l'Algérie en 1996 pour revenir sur un épisode tragique de notre histoire, l'assassinat des moines de Tibérine. Une histoire de tolérance et de terrorisme.
Au cœur de l'histoire.
Les moines de Tibérine vont être béatifiés, Pierre, le 8 décembre prochain.
Les sept moines avaient été enlevés en 1996 avant d'avoir été massacrés par le GIA. Cérémonie prévue au sanctuaire de Santa Cruz à Oran.
C'était le samedi 8 décembre à Oran. 19 religieux et religieuses d'Algérie reconnus martyrs par le pape François en janvier ont été béatifiés. Parmi eux, les sept moines de Tibérine enlevés et assassinés en 1996, officiellement tués par le GIA, le groupe islamique armé. On verra si cette version officielle tient. Mais l'histoire que je veux vous raconter, c'est aussi une histoire de fraternité, de rencontre entre catholiques et musulmans. Une histoire qui va au-delà du drame. Et je vous emmène donc au cœur de cette histoire qui commence en 1996. Le 26 mars 1996, au soir, c'était une soirée un peu particulière au monastère de Tibérine. On avait recommencé à réunir les groupes de parole chrétiens et musulmans. Cela faisait plusieurs années qu'ils avaient été interrompus à cause des violences terribles qui sévissaient en Algérie. La soirée s'était donc achevée, les moines avaient regagné leur chambre. Il était environ 1h15 du matin lorsque des véhicules s'approchent de ce haut promontoire rocheux. La route sinue jusqu'au sommet où se trouve cette magnifique bâtisse construite en 1938. Elle est de couleur ocre et dans cette nuit un peu sombre, sa silhouette massive n'en était que plus majestueuse. Une vingtaine d'hommes sont là. Ce sont les hommes d'un commando qui frappent à la porte du monastère. Le portier Mohamed hésite, entr'ouvre la porte, il aperçoit les hommes armés, il ne peut guère réagir et doit les laisser pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. Depuis sa fenêtre, un des moines, Jean-Pierre, a aperçu la scène. Il ne s'en émeut pas trop. Il reste avec la lumière éteinte et se remet dans son lit. Dans l'intervalle, les hommes armés sont rentrés à l'intérieur et ils demandent à parler au chef des moines. Un homme se présente. Il a une silhouette assez grande, de beaux cheveux blancs, un visage assez fin. Il s'appelle Christian de Chergé. C'est lui, le prieur de ce monastère. En quelques minutes, les hommes armés de Kalachnikov ou de fusil de chasse ont envahi les différentes chambres, poussent les moines à sortir, à descendre en prenant les petites valises qu'ils avaient prévues au cas où ils doivent partir précipitamment. Christian de Chergé comprend que cette situation n'est pas anodine. Avant de partir, les miliciens ont bien vérifié qu'ils détenaient sept moines, car ils pensent que ce sont les seuls à résider dans cette enceinte. Et puis, poussés par les hommes, les moines doivent s'avancer et entrer dans cette nuit froide. Il est 1h30 du matin.
À l'instant, le ministère des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement en Algérie de sept religieux français. Cela s'est passé la nuit dernière, Benoît Laporte.
Oui, effectivement, on sait encore très peu de choses sur leur enlèvement. Ce que l'on sait, c'est que ça s'est produit à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger, en pleine nuit, la nuit dernière, dans le monastère de Tibérine. C'est une toute petite communauté dans laquelle vit en permanence 8 moines. Et en plus, ils avaient un moine qui était de passage, qui venait d'arriver 2 jours auparavant. 7 ont donc été enlevés, 2 ont réussi à échapper aux ravisseurs en se cachant dans le monastère. On est actuellement sans nouvelles, évidemment, de ces 7 religieux. C'est, il faut le savoir, une région très montagneuse, assez reculée, où les groupes islamistes du GIA sont très actifs, comme l'explique Mgr Tessier, archevêque d'Alger, que je viens de joindre au téléphone.
C'est une zone où il y a beaucoup de passages en permanence de groupes, etc. C'est une zone où il y avait des groupes qui circulaient.
Mais il n'avait jamais reçu une menace précise.
Ben, c'est pas... Tout le monde est dans la société algérienne, hein, sous la menace, dans cette situation troublée. Voilà. ce que je peux vous dire.
L'enlèvement des moines de Tibérine ne pouvait pas passer inaperçu dans le contexte terrible de la guerre civile algérienne. Mais pour bien en comprendre les raisons et les motifs, il faut revenir un peu en arrière et comprendre qui sont ces moines qui se sont installés en Algérie déjà depuis près d'un demi-siècle. C'est une petite communauté religieuse de trappistes. Ce sont donc des moines qui respectent la règle de Saint-Benoît avec une stricte observance. À Tibérine, leur journée se déroule essentiellement en prière, mais ils ont aussi une activité, un travail, à la fois agricole et de relation avec tout l'environnement de cette vallée de la Médéa. Regardons le portrait de ces 7 moines. Il y a d'abord Christian de Chergé. C'est le prieur de la communauté. Il est âgé de 59 ans. Il est issu d'une famille de militaires. Son père était général. Il a appris l'arabe et il a un respect profond pour la culture musulmane puisqu'il a aussi étudié le Coran. Il est persuadé que chrétiens et musulmans vivent en frères et doivent partager un même destin. Si l'on faisait un portrait de groupe à côté de lui, se tiendrait Luc Dauchier. C'est le doyen de cette communauté. Il est arrivé dans l'Atlas en 1946 et depuis, il a décidé de soigner gratuitement tous ceux qui se présentent au monastère. C'est peut-être la figure la plus emblématique du projet de ces moines qui, de l'Atlas, veulent faire un lieu de rayonnement, d'amitié. Vient ensuite Christophe Le Breton, 45 ans. Arrivé au monastère de l'Atlas en 1987, il est le maître des novices, une sorte de sous-prieur. Il est un enfant de mai 68, il a le goût des relations avec les humbles et ici, il est comblé de cette vie simple. Michel Fleury, 52 ans, après avoir été ouvrier fraiseur, est arrivé au monastère de l'Atlas en 1984. On le présente comme la figure humble de ce groupe. Il en est d'ailleurs le cuisinier et il se charge de beaucoup de travaux domestiques. Il reste encore 2 moines trappistes à présenter. Et ils sont importants d'autant plus qu'ils sont fortement insérés dans les rapports entre la France et l'Algérie. Il y a d'abord Célestin Ringard. Il a 62 ans. Il était infirmier pendant la guerre d'Algérie. S'il est arrivé à l'Atlas en 1987, c'est parce qu'il a décidé de changer d'horizon et de changer de vie. Et depuis, il est devenu le chantre de cette communauté. Car il faut bien savoir que les moines trappistes aiment le chant. Ça fait même partie de leur principe liturgique. Et enfin, Paul Favre-Milleville est peut-être le contraire. Il est arrivé en 1989 seulement au Mont de l'Atlas. C'est un homme qui vient de Haute-Savoie, un ancien plombier qui a eu une vocation relativement tardive à 45 ans. Là, au monastère, il se charge de mettre en valeur les cultures du monastère puisqu'il possède une douzaine d'hectares et donc il a mis en place tout un système d'irrigation. C'est ce travail de la terre qui permet à cet îlot chrétien en terre musulmane, de nouer des relations continues avec son environnement, avec les habitants de la vallée de la Médéa. Mais cela le plonge aussi dans le contexte étroit de la guerre civile algérienne. Rappelez-vous, en 1989, l'Algérie avait fait une tentative de démocratisation. Mais aux élections, l'avait emporté le parti islamiste, le Front islamique du Salut. Si bien que les généraux avaient décidé en 1992 de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir. Depuis, le pays est plongé dans la guerre civile. Les islamistes se sont radicalisés au sein des groupes islamiques armés. Cette organisation a une position clandestine, mais elle devient très vite un interlocuteur visible à l'échelle internationale. Et de fait, le GIA donne un ultimatum. Tous les étrangers doivent avoir quitté l'Algérie au 1er décembre 1993. Cette décision plonge les moines dans la perplexité, car ils suivent l'actualité et la commentent entre eux chaque matin. Faut-il partir ? Une partie des moines pense qu'ils sont désormais en danger. Christian de Chergé, de son côté, pense qu'au contraire, il faut continuer la mission peut-être plus que jamais, de manière à établir un lien entre les Algériens, musulmans et les chrétiens. La petite communauté vit sous tension. Quelques jours plus tard, ils apprennent que leurs amis, des ouvriers croates qui devaient justement venir au monastère, ont été assassinés par le groupe islamique armé. Que faut-il faire ? La tension va monter encore d'un cran. Le 24 décembre 1993, ils reçoivent la visite d'un groupe armé. On leur réclame de l'aide, de l'argent et de soigner les blessés. Christian de Chergé veut bien soigner les blessés, cela fait partie de sa mission, soigner ceux qu'il appelle désormais les frères de la montagne, par opposition aux frères de la plaine qui représentent les militaires. Soigné, d'accord. Payé, non. Une discussion s'engage avec le chef du groupe. Et finalement, les miliciens repartent, sans avoir obtenu d'argent, mais avec l'assurance que désormais ils seront protégés s'ils acceptent de soigner les hommes du groupe islamique armé. À partir de ce moment, la position des hommes de Tibérine devient difficile à tenir. D'un côté, le GIA local va respecter l'accord et ne menacera plus les moines de Tibérine, mais évidemment, en échange, ils ont soigné à plusieurs reprises des hommes des groupes armés. D'un autre côté, l'armée comprend le rôle ambigu du monastère de Tibérine. Ils essayent de mettre les moines sous pression pour qu'ils partent ou qu'ils cessent d'aider les hommes du GIA. Si bien qu'en 1996, leur situation est devenue non seulement dangereuse, mais pratiquement intenable. La menace est là. Le GIA n'a pas hésité à tuer 4 ecclésiastiques à Tizi Ouzou et plus tard, 2 religieuses sont tombées sous les balles des meurtriers. La plupart des moines pensent maintenant qu'il est temps de partir. Christian de Chergé lui-même en a averti les autorités religieuses, mais on lui demande de faire un départ progressif de manière à ne pas donner l'impression d'une fuite. Tout cela est intervenu trop tard. À peine un mois après l'enlèvement, tombe un communiqué. C'est bien le GIA qui a enlevé les moines.
Le ministère des Affaires étrangères n'est toujours pas en mesure de confirmer l'authenticité du communiqué du GIA qui a revendiqué ce matin l'enlèvement des 7 moines français en Algérie il y a tout juste un mois. Dans ce communiqué publié par le quotidien arabe Al-Ayat, le GIA affirme que les moines sont toujours vivants. Il propose de les échanger contre des militants du GIA qui se trouvent en prison et menace de les égorger si ces militants ne sont pas libérés. La réaction de l'archevêque d'Alger, Mgr Tessier, joint par Christophe Delay.
Ça a été bien sûr une joie pour nous d'avoir là un signe qui nous apporte la nouvelle qu'ils sont vivants, mais nous demeurons aussi dans l'inquiétude puisque la menace sur leur vie perdure. Alors nous sommes dans l'espoir que tous ceux qui ont une responsabilité pourront trouver une solution. Et pour nous, l'espoir, c'est toujours aussi une prière, si vous voulez.
Monseigneur Tessier, depuis un mois, est-ce que les ravisseurs vous ont fait un signe ?
Non, la nouvelle que nous avons reçue ce matin, c'est la première nouvelle. Et d'ailleurs, qui ne nous est pas adressée, qui est une nouvelle qu'on a reçue à travers la presse par ce journal du Caire, là, Hayat.
Est-ce que le fait qu'il y ait marchandage est cependant un motif d'inquiétude supplémentaire ?
C'est pas à nous de rentrer dans les solutions techniques, mais nous prions pour qu'il y ait une issue qui soit favorable et qui nous permette de retrouver nos frères moines et aussi qui permette d'éviter les crimes supplémentaires.
À ce moment-là, on n'a pas exactement conscience de ce qu'a été le calvaire des moines. Ils ont dû effectuer une longue marche dans la nuit. Il faut penser à frère Luc, malade, asthmatique, obligé de s'arrêter régulièrement pour prendre son souffle. Il faut les imaginer ensuite en captivité, changeant de lieu régulièrement parce que, menacés par l'armée algérienne, le GIA cherche à les mettre à l'écart et à conserver ce qui lui paraît une monnaie d'échange. Face à cette situation, la France, comme toujours, se doit d'agir. Le président Jacques Chirac est face à différentes options. D'un côté, il y a Juppé, qui veut passer par la voie officielle diplomatique, et qui, en même temps, redoute que l'insertion des autorités dans les négociations ne soit l'occasion de perturber, en quelque sorte, le jeu diplomatique officiel. Vient ensuite Charles Pasqua, qui soutient plutôt les généraux et donc pense que, en menant une diplomatie parallèle, il pourra obtenir d'eux des informations, voire une libération. Il charge un de ses proches, Jean-Charles Marchiani, de se rendre à Alger et d'effectuer toutes les opérations nécessaires. Et puis, il y a le jeu des autorités classiques, mais en même temps secrètes. Le général Rondeau, proche de la DST, se rend à Alger le 5 avril et discute avec son homologue algérien. Il obtient quelques informations sur le groupe qui aurait enlevé les moines, sans doute un groupe dissident du GIA. De l'autre côté, les hommes de la DGSE, en sous-main, le 6 avril puis le 8 avril, obtiennent des informations sur le lieu où seraient détenus les moines. Mais tous ces efforts seront menés en vain. Car bientôt, la terrible nouvelle va tomber. Les moines ont été assassinés.
Tout de suite donc l'Algérie, la formation est tombée il y a moins d'une heure, je vous le disais. Le GIA annonce avoir tué les 7 religieux français enlevés il y a près de 2 mois en Algérie. Le communiqué du groupe islamique armé a été envoyé à une radio marocaine, Média à Tanger. Sébastien Demorand vient de joindre l'un des journalistes de cette radio, Mohamed Waldi.
Le grand point de ce communiqué, c'est qu'il rappelle toute la phase de l'enlèvement, d'abord les grandes dates, la date de la revendication. Le 28 mars, ils annoncent donc qu'ils ont transféré les moines vers les montagnes. Le 18 avril, ils annoncent qu'ils ont envoyé un communiqué pour revendiquer l'enlèvement. Et enfin, le 30 avril, ce qui est tout à fait nouveau et ce qu'on n'avait pas du tout, c'est qu'ils révèlent donc qu'ils ont envoyé un émissaire à l'ambassade de France et que cet émissaire a délivré une cassette audio qui prouve que les moines sont toujours vivants et puis un message écrit dans lequel ils fixent les modalités de négociation avec les autorités françaises. Voilà, donc ça c'est le premier point de ce communiqué. Deuxième grand point, ils annoncent la mort des 7 moines, exécutés donc le 21 au matin selon le communiqué, qui est lui aussi daté du 21 mai. Le communiqué n'est pas vraiment précis dans la mode d'exécution. Ils font simplement un rappel en disant que bien sûr, les autorités françaises ont rompu le processus de négociation, ce qui signifie que couper les têtes des 7 moines, enfin, il y a une espèce de ils sont pas tellement précis sur le mode d'exécution, voilà.
C'est donc le 23 mai que tombe le terrible communiqué qui apprend à chacun la mort des 7 moines de Tibérine. C'est la consternation qui règne en France, mais le pire viendra une semaine plus tard. Une découverte macabre près de Médéa. Les 7 têtes des moines sont retrouvées. Leurs corps, en revanche, sont absents. Cette découverte macabre commence déjà à donner lieu à une discussion autour de la version officielle. Au fond, ont-ils été décapités de leur vivant? Ont-ils été exécutés? Comment sont morts les 7 moines de Tibérine? Les premières interrogations, les premiers doutes circulent, mais déjà, le 2 juin 1996, doivent avoir lieu les funérailles des 7 moines de Tibérine. Et le correspondant d'Europe 1 était sur place.
Alger célèbre les obsèques des 7 moines de Tibérine dans une atmosphère lourde. Lourde par le ciel couvert et la chaleur moite. Lourde par le dispositif de sécurité déployé tout autour de la basilique Notre-Dame d'Afrique et dans la ville d'Alger. Mais lourde également par l'électrochoc qu'a provoqué ici l'assassinat des frères trappistes. La cérémonie religieuse a débuté il y a une heure maintenant dans cette église qui domine toute la baie d'Alger. Et on le sent bien, ce n'est pas que la petite communauté chrétienne qui se retrouve ici au nom de leur mémoire. Autour de Mgr Henri Tessier, l'archevêque d'Alger qui préside la célébration, Mgr Lustiger, venu de France, est présent personnellement pour, dit-il, souligner l'espérance née de la tragédie.
La mort de ces 7 moines est un signe étonnant de la force spirituelle de l'amour dans un pays où se déchaîne la violence. Et il me semble qu'il doit donner courage à tous, musulmans, chrétiens, agnostiques, pour combattre avec les armes véritablement humaines, qui sont à la fois l'intelligence, le cœur, le respect d'autrui, le respect de la vie de chacun. Et leur sacrifice, car c'est un vrai sacrifice, est un acte non seulement de courage, mais un acte de solidarité et un message. Et cela, tout le monde l'a compris.
Pendant que les familles des moines se recueillent et que la nation entière a une pensée émue pour ces hommes de fraternité, certains commencent à se poser des questions. Le communiqué officiel du GIA qui annonce l'exécution des moines est-il vraiment crédible? Pourquoi a-t-on retrouvé leur corps si longtemps après? Pourquoi d'ailleurs les autorités religieuses n'ont-elles pas pu participer à une véritable authentification des victimes? Bref, déjà commence à circuler l'idée que peut-être le gouvernement algérien et ses généraux ne seraient pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Curieusement, en 1996, Jacques Toubon, le ministre de la Justice, n'a pas fait ouvrir une instruction sur ces morts. Il faut attendre 2003 et une plainte déposée par les familles pour que finalement, le procureur de la République et la cellule antiterroriste décident désormais de poursuivre des investigations sur cette question. Cette ouverture d'une enquête antiterroriste résulte de l'effort de journalistes qui ont réussi à trouver des témoignages parmi les membres de la sécurité et du renseignement algérien, ainsi que parmi les membres du GIA. Il apparaît ainsi que plusieurs zones d'ombre se dessinent. Peut-être que le commando qui les a enlevés était composé d'agents infiltrés des renseignements algériens et de membres du GIA. Cela jette une lumière particulière sur la fin des moines. Ont-ils été les victimes prétextes d'un régime militaire qui cherchait à se légitimer? ou bien alors les victimes d'un fanatisme religieux qui n'avait pas de limite. L'enquête garde toute sa part de mystère. De fait, le juge Trévidic, qui a été chargé du dossier, avait demandé à ce que soit effectuée une autopsie sur les restes des moines. Les résultats sont tombés il y a quelques mois et apportent quelques réponses qui remettent en cause la version officielle. D'abord, les moines ont été décapités après leur mort. Mais sur leur mort elle-même, on ne sait que peu de choses. Elle est sans doute survenue un mois plus tôt que ce qu'annonçait le communiqué initial. En permettant que la béatification des moines de Tibérine ait lieu en Algérie, le Vatican a envoyé un message fort. Ce qui importe, c'est cette tolérance, cette fraternité humaine qu'incarnaient les sept moines de Tibérine. Leur vie et leur mort ne doivent pas faire obstacle au message de fraternité et de tolérance qui était le leur. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Simon Maisonneuve et réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.